7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, direction les États-Unis, Floride et plus précisément Mar-a-Lago.
Eh oui, on en parlait à l'instant avec Dominique André. Mar-a-Lago, l'une des résidences privées de Donald Trump, l'une de ses préférées, est d'ores et déjà surnommée sa Maison Blanche d'hiver. Un lieu exceptionnel, pas forcément c'est vrai en termes de bon goût, mais en tout cas en termes de luxe et d'opulence, on va le voir. Et c'est donc dans cette résidence que le président américain va recevoir ce soir et demain son homologue chinois Xi Jinping. Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington. Frédéric, vous faites partie des rares journalistes à avoir pu visiter ce lieu ultra select. D'abord, ça ressemble à quoi Mar-a-Lago ?
Disons qu'on est dans le plus ancien château de cette région de Palm Beach, plage privée évidemment, inspiration andalouse dans le patio, plus tendance galerie des glaces dans les salles de bal, et si Xi Jinping a droit à la visite complète, il passera devant un portrait de Donald Trump sobrement intitulé « Le visionnaire ». Et l'originalité du lieu, c'est qu'il s'agit d'un club privé, avec des membres, 600 environ, qui se retrouvent aux premières loges de la présidence Trump. Ils le croisent le week-end quand il y vient régulièrement, ils ont même dîné juste à côté du président américain et de son homologue japonais il y a quelques semaines, mais là, raconte Guido Lombardi, carte de membre numéro 1, ils seront un peu tenus à l'écart.
Eux, ils vont être ici, dedans, et cette porte-là va être fermée, le bar va être fermé, et nous, on va être dehors.
Un autre membre du club espère quand même que si cela se passe bien, Donald Trump présentera le président chinois à ses amis. Vous le voyez, la carte de membre de Mar-a-Lago n'a jamais été aussi précieuse. Ce qui amuse Régine, installée à Palm Beach avec son mari Bill, un couple qui connaît Donald Trump depuis 30 ans.
Pour être membre de Mar-a-Lago, ils ont doublé le prix de, je crois, 200 000 $ pour être membre. Parce que c'est populaire, tout le monde veut suivre le pouvoir. Et le pouvoir est à Mar-a-Lago.
Et c'est tellement vrai, Mickaël, que 3 membres de ce club prestigieux se sont vus proposer un poste d'ambassadeur par l'administration Trump.
Alors ce n'est pas la première fois qu'un président américain reçoit des dirigeants étrangers dans une résidence privée. On se souvient notamment de Camp David. Mais pourquoi ici, à Mar-a-Lago, plutôt qu'à la Maison Blanche, Frédéric ?
Alors il y a une raison très diplomatique, c'est qu'il faut montrer au président chinois qu'il compte autant que le premier ministre japonais qui avait eu droit à son week-end à Mar-a-Lago. Et puis surtout, d'une certaine manière, là Donald Trump joue vraiment à domicile. Il n'est pas dans le cadre formel de la Maison Blanche et les journalistes sont encore plus tenus à l'écart qu'à Washington. Bref, explique Christophe Rudy, dirigeant du groupe de presse Newsmax et interlocuteur régulier du président américain. Voilà des circonstances idéales pour Donald Trump.
C'est un endroit très important pour lui parce qu'il est très heureux ici. Il est ouvert aux gens, il trouve que c'est un environnement plus détendu pour rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense que c'est une occasion idéale pour créer un lien avec le président chinois. Ce sera bénéfique pour les deux parties.
Mar-a-Lago, donc, l'endroit pour mieux se connaître, pour tisser des liens personnels. Et souvent, cela se fait autour d'un de ces parcours de golf, autour du domaine que possède Donald Trump, d'où cet avertissement que lance Guido Lombardi.
Ça va être la diplomatie du golf, parce que on fait des bonnes affaires quand on joue au golf. Tu parles tranquille, il n'y a pas personne qui regarde, il n'y a pas les secrétaires, il n'y a pas le téléphone, il y a 2 heures, 3 heures... que tu joues et tu parles et tu viens à connaître vraiment la personne.
Tout peut se négocier effectivement sur un parcours de golf avec Donald Trump, mais là, il faudra trouver autre chose avec le président chinois. Il n'est pas un adepte de ce sport et on n'est pas a priori dans l'idée de l'affichage d'une complicité excessive. Xi Jinping, par exemple, sera logé dans un hôtel et pas dans la résidence de Mar-a-Lago.
Et en plus de tout cela, ces séjours réguliers de Donald Trump à Mar-a-Lago perturbent de plus en plus le voisinage.
Évidemment, parce que ça coûte cher. Le comté de Palm Beach a fait les comptes, 1 500 000 $ depuis le mois de janvier. Il faudra donc couper dans des budgets ou augmenter les impôts. Sans compter l'aéroport local qui est mis au repos forcé. Voilà donc la réaction de Linda, agent immobilier, quand elle apprend que Donald Trump vient à nouveau passer une fin de semaine dans son domaine.
Oh non, pas encore. Même quand Donald Trump vient tout seul, vous savez, il a un golf un peu au nord d'ici et un autre près de l'aéroport. Eh bien, où qu'il aille, il a le convoi qui l'accompagne et la police locale qui ferme toutes les sorties d'autoroute. Donc oui, cette fin de semaine, ce sera pire, le pire du pire.
La bonne nouvelle pour les résidents de Palm Beach, c'est que la belle saison se termine. On va rentrer dans la période de chaleur étouffante et de tempête. Normalement, Michael, à partir du mois de mai, le club de Mar-a-Lago fonctionne au ralenti.
Frédéric Carbone, correspondant d'Inter-Washington, merci. Et donc, de retour de Mar-a-Lago.
Des États-Unis au Japon, Michael, avec À nos amours, le dernier manga de J.P. Nishi.
Oui, J.P. pour Jean-Paul, et ne vous y trompez pas, Jean-Paul Nishi est bel et bien japonais, et même l'un des plus célèbres mangaka nippon, autrement dit dessinateur de BD japonaise, manga. Et J.P. a la particularité de vivre entre deux cultures, la sienne et celle de sa femme, journaliste française rencontrée au Japon il y a plus d'une décennie, l'occasion de multiples allers-retours entre Tokyo et Paris, et donc aussi l'occasion de comparaison, d'étonnement. Notre mangaka en avait déjà fait plusieurs BD exclusivement consacrés à la capitale française, dans lesquels il brisait avec humour le glamour et le chic parisien, tel que vendu à longueur d'année par la presse japonaise. Mais cette fois, c'est au couple, à la famille et au code de la vie amoureuse que s'intéresse Jean-Paul Nishi, le quotidien d'un couple mixte avec enfants. Et tout commence par un premier étonnement, presque un premier choc, J.P. Nishi.
Alors clairement, pour les Japonais, le plus étonnant, c'est le fait d'être félicité en permanence, de recevoir des compliments en permanence de la part du partenaire, en l'occurrence là de ma femme, d'être embrassé, d'avoir des bisous, tout ça, dans les relations au Japon, c'est pas forcément quotidien. Donc ça, c'est la première chose qui effectivement surprend dans les relations hommes-femmes.
Le premier choc aussi quand on débarque en France, c'est de voir que les Français, les couples, s'embrassent en public presque partout. N'importe quand.
Je me souviens d'une scène dans le métro où sur le quai il y avait trois sièges libres et un couple qui est arrivé et l'homme s'est assis et en fait la fille au lieu de s'asseoir sur le siège à côté s'est assise sur les genoux de son copain. Ça m'a fait rire parce qu'on voit pas ça du tout au Japon, c'est même impensable.
Voilà, pas de bisous, pas de gestes tendres, ni de compliments en public lorsqu'on est en couple, ce qui n'empêche heureusement pas de faire un enfant. Le bambin, il est là, il a aujourd'hui 5 ans, acteur majeur évidemment de ce manga, mais dans un couple mixte se pose forcément un jour la question du pays où élever l'enfant, la France, le Japon. Eh bien aucune hésitation pour les parents, tout est plus facile à Tokyo, y compris pour des petites choses toutes simples.
Je continue à penser que Tokyo est quand même plus facile. Bon d'accord, il y a un problème d'accès à la crèche pour les tout-petits. Une fois que c'est résolu, maintenant j'ai aucune insatisfaction vis-à-vis de la vie à Tokyo. Évidemment, je ne connais pas toute la situation en France, mais j'en ai quand même une petite expérience. Si j'en juge par juste une anecdote récente, on va se promener avec mon fils au jardin du Luxembourg et d'un seul coup, il dit « Papa, j'ai mal au ventre, je vais aller aux toilettes ». Et alors là, trouver des toilettes, c'est quasiment impossible, quoi. Donc on en cherche, on en trouve enfin, elles étaient fermées. Donc pour moi, il y a cette espèce de fossé entre la beauté et l'immensité de ce parc et le fait qu'il n'y ait même pas le minimum vital des toilettes, quoi. Ce genre de choses me font dire que finalement, je m'en sors mieux à Tokyo.
Mais il y a des inventions extraordinaires, il y a la tétine par exemple.
La tétine.
On voit ça dans le manga.
Ah, allez voir. Alors c'est clair que la tétine, du point de vue par exemple de la génération de mes parents, c'est pas très bien vu, quoi. Mais bon, ils ont dit, bon, t'es marié avec une étrangère, l'étrangère, elles utilisent les tétines, donc bon, allez, pourquoi pas. Et maintenant, c'est vrai qu'au Japon, il y a pas mal qui les utilisent, mais il y a quand même une espèce de malaise vis-à-vis de ce genre d'objet pour faire taire les enfants. Et puis en plus, effectivement, c'est interdit dans les crèches et les écoles maternelles.
Et ben voilà, tétine hors la loi dans les crèches.
Fantastique.
Pas les bisous de papa ou maman au moment de partir, mais c'est tout de même assez mal vu. Tout comme une autre habitude très française, vous savez, c'est les petits noms, les petits surnoms un peu cucu, c'est vrai, qu'on se donne souvent en couple, mon chéri, ma puce, mon amour. Eh bien ça non plus, au Japon, ça ne se fait pas.
Effectivement, bon, c'est assez rare comme ça d'avoir des espèces de surnoms très génériques, en fait, que tout le monde emploie un peu, mon chéri. Au Japon, il arrive qu'en couple, on puisse se donner un petit surnom, mais ça n'a pas la même connotation. Ça ne va pas être mon chéri, ça ne va pas avoir forcément une connotation amoureuse.
Et en général, on se contente donc simplement d'ajouter au prénom le suffixe « chan », c'est affectueux et c'est humoristique. Enfin, quand on est un jeune papa japonais, connaisseur de la France, qu'est-ce qu'on a envie de ramener à Tokyo ? Quelle habitude, quel objet français aimerait-on voir généralisé au Japon ? Réponse.
Il y a une chose, et je le raconte aussi dans le manga, ce sont les bisous. Ça, les bisous, j'aimerais bien ça importer ça au Japon, parce que bon, c'est pas dans les mœurs, et il adore ça. Et l'autre chose, étonnamment, sont les services en ligne, qui sont, avec le smartphone, qui sont plus développés ici qu'au Japon, en fait. Bon, l'application Uber, par exemple, c'est quelque chose qui a été immédiatement proscrit au Japon, et bon, il y a plein de, comme ça, d'applis qui sont développées en France et qu'on ne voit pas encore au Japon. C'est étonnant parce qu'on a souvent l'image inverse. En fait. Et les sacs poubelles avec les fils pour le refermer.
Il n'y a pas ça au Japon ?
Ben non, il y a des sacs poubelles mais sans fil pour le refermer.
Là, il n'y a pas de sac poubelle refermable au Japon. Il y a donc un marché à saisir, Nicolas.
On y va.
En attendant, je vous conseille ce manga très drôle, À nos amours, de Jean-Paul Nishi. Et notez que la traduction était assurée par Karine Nishimura, poupée elle-même, la femme française de JP. Pour finir, on reste au Japon avec ça. Alors, de quelle autre particularité japonaise s'agit-il ?
J'ai entendu Yakuza !
Eh oui, les Yakuza, autrement dit la mafia japonaise, organisation criminelle ultra structurée, puissante, codifiée et qui est en deuil. Car depuis le 29 mars dernier, Shitsuwa Documento n'est plus, ce n'est pas un baron Yakuza qui disparaît, c'est une revue, Nicolas, le magazine officiel de la pègre Nippon, un périodique que l'on pouvait acheter en kiosque depuis 34 ans pour y trouver toute l'actualité des Yakuza, les derniers faits d'armes, carnet rose ou carnet noir, photos, anecdotes, petites annonces, nouvelles érotiques. Le magazine s'écoulait à 70 000 exemplaires chaque mois, n'avait aucun problème de financement. Mais voilà, la législation japonaise sur le crime organisé a changé. Plus le droit désormais de faire une quelconque apologie des Yakuza. Au revoir Nicolas Chan.